Mais enfin, plus jamais. Hein.
Plus jamais quoi?
Plus jamais on prend des vacances de podcast.
C'est si dur que ça?
Tu te rends compte, on a breaké quoi? Un mois, un peu plus d'un mois? Il s'est pas passé énormément de choses dans le. Enfin, c'est un mois d'août à la fin. Mais j'ai été frustré de pas pouvoir jouer au ping-pong avec toi sur. La tempête dans un verre d'eau du système de détection des contenus pédopornographiques, l'ouragan dans une cuillère à soupe de qu'est-ce que c'est qu'une application native et One Password et tout ça, le cataclysme dans un dé à coudre des 10 ans de Tim Cook et peut-être un jour il va prendre sa retraite. Enfin, il y a un côté, tu m'as beaucoup manqué.
Alors, je suis très touché. Et de l'autre côté, je pense que. Je ne sais pas si tu as envie d'en découdre du coup maintenant. Ou si tu as fait ton deuil de ces sujets néanmoins fascinants, mais effectivement quelque peu.
Je suis pas assez affûté. J'étais en vacances quand sont tombés les communiqués de presse autour de la détection des contenus pédopornographiques et où effectivement la com d'Apple n'était pas très très claire. Donc je suis pas super affûté là-dessus. Sur One Password et qu'est-ce que c'est qu'une application native, j'ai des choses à dire hein, parce que c'est catastrophique. Hein. Ça montre une faiblesse intellectuelle des observateurs et enfin, des observateurs des commentateurs au sens large qui est quand même assez affligeante. Hein. C'est Donc quand on parle de cette polémique, on parle de la polémique de One Password 7 qui est devenue One Password 8, ou en tout cas une préversion de One Password 8, qui ne sera plus une application native au sens ancien du terme, mais sera une application Electron. Electron étant ce framework qui, grosso modo, utilise Google Chrome, donc embarque un navigateur dans l'application. L'idée étant que tout un tas de l'interface n'est qu'une grosse page web, en résumant à très 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 gros traits. L'intérêt de la chose étant que tu peux reprendre tout ce code-là et l'avoir sur l'iPhone, sur l'iPad, sur le Mac, sur Windows, sur Linux. Et donc, d'une seule application, tu en as X. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le cas présent, hein, c'est que cette logique-là, c'était l'application de la version Linux de One Password, et qu'en fait, l'application Linux est devenue l'application Mac, Windows, iPad, iPhone. Et évidemment, ça, pour un utilisateur Mac, c'est intolérable. Je trouve qu'il y a une forme de paresse intellectuelle à dire, parce que c'est une application Electron, c'est une mauvaise application.
C'est pas juste une forme de paresse, c'est totalement de la paresse.
Alors laisse-moi reformuler. C'est de la grosse paresse intellectuelle de dire une application Electron est forcément une mauvaise application. Et surtout de dire une application Electron n'est pas une application native, ce qui déjà pose un problème, parce que la vraie question derrière, c'est qu'est-ce qu'une application native? Et quand tu poses la question qu'est-ce qu'une application native, je suis pas sûr que tu aies envie des applications natives telles qu'elles existent sur macOS en 2021.
C'est marrant parce qu'on en parlait effectivement. Déjà de la disparité de l'expérience de ces applications natives, de la maison mère entre guillemets, pose problème parce qu'il y a des choses absurdes comme il y a des choses merveilleuses. Donc il n'y a aucune égalité, il n'y a aucune équité, il n'y a même aucun système en fait si on réfléchit jusque-là. Du coup, la notion d'application native, en fait, il y a un côté. Il y a un côté un peu raciste. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On ferme la porte à la possibilité de. Enfin, on considère qu'il y a ce camp des applications natives qui est forcément le camp du bien et les applications autres, dont Electron, qui sont. Mais enfin, la réalité est tout à fait nuancée, quoi. C'est un patchwork. Il y a des applications natives merdiques, ça existe. Hein.
Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une application native?
Ah, ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, je pense, en tout cas. Parce que, vu que dans l'expérience, il y en a qui sont aussi bien des succès que d'autres des échecs, et on parle de gros échecs sur la durée, bah, la notion d'application native en tant que telle, en tant qu'avantage, n'a pas de sens, quoi.
Non, et parce que la définition classique qui est de dire une application native sur Mac, c'est une application AppKit Coco, elle tient pas en 2021.
Surtout pas en 2021, non. Surtout pas avec les deux WDC qu'on a eu coup sur coup. Non.
Est-ce que Safari, c'est une application native? Est-ce que Musique, c'est une application native? Est-ce que le centre de contrôle, c'est une application native? Safari, une application qui est écrite en grande partie en C et dont le moteur est commun avec l'iPhone et l'iPad et dont maintenant le moteur d'interface est commun avec l'iPad. Musique, qui est une application complètement chelou avec des composants WebKit à l'intérieur, plus plein de frameworks qui sont multiplateformes. Le centre de contrôle qui a été réécrit en Swift UI. Une demi-douzaine d'applications et pas des moindres, qui sont maintenant des applications iPad. Applications pas du tout Coco et AppKit, hein, et qui tournent de facto dans une machine virtuelle quand tu es sur Mac. Qu'est-ce que c'est qu'une application native ? Et est-ce que quelqu'un peut sérieusement prétendre que l'application Bourse est une application plus native que OnePassword 8 ?
C'est le droit de vie sur les applications. C'est... Pour moi, je vois ça que comme ça. C'est, le... c'est les applications de souche. Non, mais c'est ça. C'est littéralement ça, en fait. Et je te dis ça en tant que mec de droite, je veux dire. Donc, c'est... J'explique pas autrement le... la chose.
Et on fait un faux procès aux applications Electron, et je trouve ça un peu facile, quoi. Il y a... Il y a certes, c'est certes facile de faire des applications Electron merdiques parce que c'est facile de faire des applications Electron. Mais enfin, être une application native, et encore une fois, qu'est-ce qu'une application native ? C'est pas une garantie de faire une bonne application. Et si tu prends juste les applications fournies avec l'OS, tu les prends aujourd'hui, tu les prends il y a 10 ans. Ouais. Enfin, musique, quoi. Dans le genre application qu'on utilise tous les jours. Une application réputée native, c'est un enfer.
C'est répugnant comme application. Je sais pas comment ça existe. Enfin, c'est un monstre. Ça devrait pas exister. À chaque fois que je la lance, elle dit « Tuez-moi, s'il vous plaît !»
Et ça viole toutes les conventions d'interface, et, mais de manière pas cohérente en plus.
Ah oui, oui, oui.
C'est-à-dire qu'elle est même pas d'accord avec elle-même, cette application.
Non, mais c'est EDQ, cette application. Je cherche pas. Voilà, le point EDQ est atteint.
Mesdames et messieurs, 9 minutes 57.
Non, mais qu'est-ce qu'il fait encore, chien ? Bon, peu importe, peu importe. Ok.
Donc ça, ça m'a gratouillé pendant 15 jours parce que, merde, quoi. Et puis, c'est stupide parce que on se fiche bien de savoir aujourd'hui qu'une application est... entre guillemets native. Aujourd'hui, ce que les gens y veulent, c'est des applications qui sont de facto des coquilles vides pour des services, parce qu'ils veulent avoir les mêmes fichiers, les mêmes fonctions, voire de plus en plus souvent, ce qui est déprimant, la même interface, sur iPhone, sur iPad, sur Mac. Et donc, une application Catalyst ou une application Electron sont aujourd'hui des applications plus natives que les applications soi-disant natives. Et si tu as le temps de faire des applications d'un côté CocoTouch, de l'autre côté Coco, avec AppKit, tant mieux. Le fait est que même Apple n'est pas capable de le faire. Ou que Apple le fait en enlevant les vieux composants AppKit du Mac et en les remplaçant à la place par des trucs qui viennent de l'iPad. Donc ça prouve quand même où va le sens de l'histoire, quoi. Donc bon. OnePassword est une application tout aussi native, quand bien même elle serait une application Electron, que n'importe quelle autre application sur plateforme. Et puis voilà.
Ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'application native ou pas native, il y a des applications.
Bah, de fait, maintenant, oui, parce que qu'est-ce que c'est... Enfin, où sont les limites de la plateforme, quoi. Aujourd'hui, je me suis quand même retrouvé, en écrivant mon bouquin sur mon trait, à avoir à mon écran avec Sidecar à la fois le Safari du Mac et le Safari de l'iPad. Enfin... Où sont les limites d'une plateforme ? Où sont les limites de l'autre ? Où commence l'une ? Où finit l'autre ? Enfin, et du coup, enfin, on s'en fout de savoir qu'est-ce qu'une application native dans ce cadre-là, puisque tu sais même pas sur quelle plateforme t'es, quoi. Donc tu t'en fous, tu veux des fonctions, tu veux des services, tu veux tes fichiers, enfin, tu veux tes données, quoi. Et OnePassword 8, certes, est un peu plus lourde avec Electron, certes, est un peu moins bien intégrée parce que c'est la première version Electron alors que l'autre, il y a 15 ans de passif. Mais ça va aller mieux, et en attendant, j'ai ma synchronisation de mes mots de passe, et j'ai tous mes mots de passe. Et à la fin, c'est ce que je demande à un gestionnaire de mots de passe.
Au final, c'est toujours la même question, quoi. À quoi ça sert ? Est-ce que ça sert, en fait, simplement ? C'est tout.
Et ça me paraît un peu compliqué, d'un côté, de hurler contre Apple quand une fonction est disponible sur iPhone et pas sur iPad, ou quand une fonction est disponible sur iPad et pas sur Mac. Et de l'autre côté, d'aller engueuler OnePassword parce qu'ils ont fait une application Electron, parce qu'ils voulaient les mêmes fonctions sur toutes les plateformes. Au bout d'un moment, il y a une dissonance cognitive qui est quand même... Enfin... Merde, quoi.
Et je pense que ces gens-là aiment bien Apple Music, c'est pour ça. Ils sont faits pour la contradiction.
Ils ont le droit, mais enfin, bon.
T'as essayé l'application qu'ils ont rachetée, là, de musique classique
Primephonics,
pardon.
Non,
oui.
J'utilisais... Pendant un temps, j'ai utilisé son concurrent qui est Idagio.
Ah oui, je vois.
C'est vraiment intéressant comme acquisition parce que Je lisais un tweet il y a quelques jours qui disait, enfin qui posait comme théorème que la musique classique n'était pas de la musique. Au sens, c'est difficile de gérer la musique classique comme tu gères le reste de la musique, de décrire la musique classique comme que tu décris le reste de la musique.
Je veux bien entendre ça. Même ne serait-ce que de manière purement logistique. À organiser tout ça dans la bibliothèque, c'est très différent de... Bah, oui.
Et où c'est assez marrant de se dire, bah, ils ont acheté Prime Phonics. C'est un constat d'échec, quoi. C'est, on n'arrive pas à intégrer la musique classique dans un service qui a fondamentalement été conçu pour le hip-hop et la R&B. Et donc on va faire un service à côté pour la musique classique, avec une toute autre logique, parce que Prime Phonics mettait beaucoup en avant les compositeurs. Et à l'intérieur, par exemple, quand tu cliquais sur Mozart, tu avais à l'intérieur, tiens, ça c'est les meilleurs. Ça, c'est les pièces pour lesquelles il est le plus connu, ça, c'est les meilleures orchestrations, ça, c'est les grands interprètes de Mozart, etc., etc.
C'est son nouveau single.
Et c'est vrai. Et c'est vraiment une logique complètement différente. Et c'est le message, quelque part, qu'Apple envoie, c'est oui, la musique classique, c'est pas de la musique. Donc, ça va pas aller dans Apple Music. Enfin, je suppose qu'on y aura toujours accès, j'espère en tout cas.
Oui.
Mais on aura une interface complètement différente. Je suis à peu près certain qu'ils vont nous la faire payer en plus. Parce que les gens qui écoutent de la musique classique, évidemment, crachent au bassinet. Et j'en suis, hein. Et puis, mais oui, je trouve ça assez fascinant comme annonce. Ouais. Et puis surtout, pré-annoncer un produit, c'est quand même très rare de la part d'Apple.
Très très rare. Et surtout, même annoncer juste simplement une acquisition déjà. Et c'est vrai, non?
Oui, de ne pas l'annoncer, de ne pas la confirmer 6 mois plus tard quand Bloomberg a fini par trouver que ça s'est passé. Ouais.
Ouais. Et ce que je me pose comme question, c'est est-ce que ça va peut-être. Enfin, c'est vrai qu'Apple Music est très orienté, musique urbaine, tout ça, ce que tu veux. Et les autres genres de musique ont un peu du mal à se faire une place là-dedans. Et ça va de la variété française au jazz, en passant par le classique. Et je pensais, enfin, pour moi, un des équivalents de la musique classique, c'est le jazz en termes de bah, classification, d'œuvres, de compositeurs, slash versions. Peut-être que ça va être étendu justement au jazz, qui sait. Ce côté, ça ferait un côté élitiste, c'est Apple Music, mais bon.
Je serais pas contre, moi qui suis un grand fan de jazz, je serais pas contre. Parce que c'est un peu effectivement le même problème où tu as
Ouais.
très clairement des standards et où tu pourrais avoir envie de comparer les différentes interprétations dans le même standard. Ils ont changé il y a quelques mois la présentation de ce qui avant s'appelait genre et qui maintenant s'appelle catégorie, ce qui d'ailleurs dit des choses sur la manière dont Apple considère la musique. Et où le jazz, oui, c'est un truc. Alors que c'est. Enfin, moi, j'ai du mal à parler du jazz, du genre jazz, parce que enfin, ça veut rien dire, quoi. Et ouais, à l'intérieur de ça, il y a 50 genres différents.
Comme le classique lui-même, d'ailleurs, c'est vrai que c'est très
Exactement,
abstrait.
ouais.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et il y a. Ça manque un peu de granularité. C'est vrai que, bah, quelque part, tu es un peu à l'étroit dans l'interface d'Apple Music. Et d'autres genres sont pas du tout à l'étroit dans cette interface-là. Donc, elle marche pour tout un tas de musiques. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour ces genres qui ont un passif, hein, la musique classique, c'est quelques centaines d'années. Le jazz, c'est plus de 100 ans. Bah, t'as une. Quelque part, c'est une branche de la musique à part entière, quoi. Donc, t'as presque l'envie d'avoir une deuxième copie d'Apple Music à côté avec que du jazz. Et puis, à la place d'avoir tes différents genres de musique, bah, t'as tes différents genres de jazz. Et vraiment, tu dupliques toute l'expérience. Donc, oui, je serais pas forcément opposé à ce que, oui, ce modèle qui semble se profiler pour la musique classique, il le reporte, il le duplique pour d'autres genres. Ouais.
L'approche d'Apple Music, quand même, en général, sur la musique, c'est. Enfin, j'arrive pas à me défaire de l'idée que ceux qui n'aiment pas la musique vont sur Apple Music, quoi. C'est quand
Ah,
même.
ça, t'es un
C'est une
peu dur.
consommation. Non, c'est une consommation. Ou alors, faut vraiment aimer la musique, tu vois, le hip-hop, le rap, tout ça, il faut être connaisseur, tu vois. Dans ces cas-là, bon, tu peux trouver ton intérêt, mais c'est pas présenté de manière à mettre en valeur la musique, en fait. C'est difficile d'avoir une expérience agréable de musique, je trouve. Ils font des efforts, ils font plein de tentatives. Ça, par contre, je ne leur retire pas. C'est qu'ils font plein d'expérimentations différentes. Toutes ne sont pas vouées à un lendemain, mais il y a une démarche de tâtonnement quand même. Ils cherchent.
Je suis pas tout à fait du même avis, surprise. En fait, je me demande ce qui relève de la faute d'Apple et de la faute des artistes.
Attends, tu parles des artistes ou des majors?
Des artistes.
Ok.
Je crois qu'on est à un moment d'inflexion dans ce qu'est l'objet musical. Ou très clairement, quand tu parles de la musique classique, l'objet musical, c'est la pièce, que ce soit un concerto, un opéra, peu importe. Et qui s'inscrit dans un livret, quoi, dans du papier, dans une partoche. Et on arrive au milieu du siècle dernier, tu as la naissance du LP, la naissance de l'album, et toutes les expérimentations et les expériences autour du format album. Et je crois qu'on est à un moment où l'album explose. De la même manière que le bouquin, il a été atomisé par le livre numérique et par le web.
Oui, c'est vrai, les singles notamment. Enfin, oui, okay.
Oui, et en fait, on a un moment où on a toujours des artistes qui sortent des albums. Beaucoup d'artistes qui sortent des albums qui n'ont en fait d'intérêt que pour deux singles et le reste, c'est quand même de la soupe.
Oui.
Et ces albums ne seraient jamais sortis il y a 30 ans.
C'est vrai.
Parce qu'ils n'ont pas d'unité, ils n'ont pas de cohérence. Et je crois que l'artiste, qui est un artiste que j'écoute extraordinairement peu, mais je crois que l'artiste qui joue le mieux le jeu des plateformes de streaming, c'est Drake. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Drake, il a très clairement misé sur Apple Music. Et où ça fait des années qu'il n'a pas sorti d'album. Mais il ne se passe pas 6 semaines sans qu'il drop un single. Et où tu peux suivre comme ça sur plusieurs années la progression de sa musique, la progression de sa pensée, la progression de ce que tu veux, la progression d'un artiste, quoi, tout simplement. Et où c'est extraordinairement adapté au fait que tu as un moteur de recherche, que tu as des playlists, que tu as ta voix pour lancer de la musique quand tu utilises des HomePod. Voilà, c'est « Lance-moi le dernier single de Drake ». Et où il n'y a pas cette prétention à « j'ai vraiment qu'une idée ou que deux idées d'une chanson de deux chansons et puis je vais en pisser 6 autres pour faire un LP, quoi. »
Alors, je trouve ça vraiment très intéressant que tu dises ça comme ça. De mon côté, je vois l'aspect négatif, surprise. Il y a une démarche peut-être plus pauvre. C'est-à-dire que tu sors quelque chose qui est un constant devenir, en fait. Comment dire, t'auras pas de... Si tu sors des... Enfin, avant, il y avait un album, on va dire. Il y avait aussi les hits, bien sûr. Donc, c'était un single, le hit. C'est une chanson particulière. Mais en général, il y a un contexte, il y a une vision artistique, il y a ce genre de choses qui... Une cohérence dans un tout, tu vois. Ça fait partie d'un tout. Et le fait d'avoir des singles sur singles comme ça, je me demande si ça nuit pas un peu à cette idée de, entre guillemets, chef-d'œuvre. Dans le sens où c'est détaché de tout le reste.
Mais en quoi c'est différent de Bach qui pisse 1500 œuvres sur sa vie, quoi? Et sur commande, en plus.
Je suis très à l'aise avec le fait des commandes. Je pense que c'est ça qui fait travailler les artistes et surtout les fait créer mieux.
Et c'est répétitif, hein, parce que je suis en train de me manger des cantates. C'est quand même toujours la même chose. Hein. donc, elle est où la notion de chef-d'œuvre, là, dans... Mais je crois qu'il faut faire distinction entre une œuvre et un œuvre. Et je crois que l'œuvre au masculin de Bach est plus importante que les œuvres au féminin de Bach. Et que c'est le cas pour plein de compositeurs classiques, parce que, excuse-moi, quoi, mais c'est quoi la cohérence de la première symphonie et de la neuvième symphonie de Beethoven sur un même album? Il n'y en a pas. Et je crois que c'est la même chose pour Drake, quelque part. Sans vouloir dire que Drake est le Bach de notre temps, parce que non. Mais
il y a un petit fossé quand même entre les deux.
Mais quelque part, en même temps, si. Et je crois que l'œuvre au masculin de Drake et cette constante sortie de single qui d'ailleurs moi me fait réfléchir en tant que créateur, hein, il se remet devant ses instruments et devant ses pads et devant son ordinateur de la même manière que moi je me remets devant mon ordinateur, et où ce qui est plus important c'est d'être là et d'aller au turbin, quoi. Et de la même manière que moi j'écris des articles et que on va pas me retenir pour tel ou tel article, mais on va retenir pour ce que je dis sur voilà, des mois ou des années sur tel ou tel thème. C'est la même chose avec Drake, quoi. Et où voilà, son œuvre masculin, il est plus important que tel ou tel single, quoi. Et où c'est sympa les albums, hein, et je veux dire, l'album blanc des Beatles, on fait difficilement mieux, quoi. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la création musicale, quoi. Et du coup, je crois que on est à la croisée des chemins et qu'on est à un moment de redéfinition de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre musicale. et que les services de streaming, que ce soit Apple Music, Spotify ou les autres, ils sont pas, ils peuvent pas gérer les deux cas, quoi. Et que bah, si tu gères correctement les albums, c'est difficile de gérer correctement les playlists et les singles. Et tu le vois hein, dans les découvertes de la semaine de Spotify ou dans les dans le bandeau des sorties d'Apple Music. Mélanger des albums et la palanquée de singles qui sont sortis cette semaine, ça casse, quoi, ça marche pas de mélanger ces objets qui sont très différents. Et mélanger en plus, ajouter en plus de ça la complexité des listes de lecture, ça fait un peu beaucoup. Et je pense que c'est pas uniquement, c'est pas forcément un problème d'interface et c'est pas forcément un problème informatique, c'est aussi un problème de conception de qu'est-ce que c'est que l'art, et qu'on est à un moment où, où les artistes eux-mêmes savent pas, quoi, se sont pas décidés, et tu peux pas exiger d'Apple Music qu'elle soit capable de suivre un, enfin d'aller à la conclusion avant les artistes eux-mêmes, quoi. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas dans l'interface d'Apple Music, et il y a plein de choses à dire sur justement, encore une fois, qu'est-ce qu'une application native, qu'est-ce que c'est qu'une bonne intégration à la plateforme, mais je crois pas qu'on puisse tout imputer à Apple, en tout cas pas sur la manière dont est présentée la musique, par exemple dans l'onglet Explorer. C'est rare qu'on soit pas d'accord.
C'est rare. Alors, cela dit, bon, tu m'as un peu convaincu sur le côté album single, enfin il y a la relation de non-supériorité entre l'un et l'autre. Je pensais, en fait, j'avais en tête le dernier album de Lana Del Rey, tu vois, pas le dernier, celui d'avant, Norman Fucking Rockwell, et pour le coup, qui est un album concept avec du coup une vraie cohérence, tu vois, bon, voilà, c'est une vraie vision, mais de A à Z, et très peu de choses achetées. Mais c'est vrai que tous les albums sont loin d'être comme ça, et c'est plus une exception aujourd'hui qu'une norme. Donc, oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Sur Apple Music, bah. J'aimerais quand même, au final, enfin, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ce soit plus adapté à ce que j'écoute, quoi. Et c'est là encore qu'il y a beaucoup de chemin à faire, parce que je dois chercher les nouveautés qui m'intéressent manuellement. Et ce qui m'est présenté en nouveauté, j'imagine que c'est un petit peu orienté en fonction de mes goûts, mais c'est souvent à côté, quoi.
Il y a un problème qui est peut-être moins prégnant chez Spotify. Donc là, j'ai essayé Spotify pendant 3-4 mois et je viens de remettre à zéro ma bibliothèque Apple Music. Et donc j'ai remis quelques albums, et cette semaine, alors qu'Apple sait très bien que j'écoute du jazz quasiment en permanence, cette semaine j'ai écouté le dernier album de John Mayer. Et ce matin, donc je l'ai écouté hier, et ce matin, dans mon onglet pour vous, j'avais que du soft rock et que de la pop. je n'écoute que du jazz depuis que je me suis remis à Apple Music. Il y a que des albums de jazz dans la bibliothèque. Et parce que hier j'ai écouté John Mayer, ce matin j'ai que ça. Et il y a une espèce d'hypersensibilité à la différence. Enfin, c'est vraiment le pire des algorithmes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Tu
fais un écart. Oui.
Ça, je sais. John Mayer. Alors attends, je vais te montrer.
J'ai tout ce qu'il faut là.
Tous les groupes à la mode. Je vais te montrer Taylor Swift. Par contre, là, ton groupe allemand, ton quartet allemand de hautbois qui fait du jazz expérimental, ça, je sais pas. Donc, je sais pas quoi te proposer. Donc, John Mayer.
En fait, je reviens sur ma pensée quand même que Apple Music maltraite un peu la musique. C'est que quand j'ajoute, je sais pas si ça te fait ça pour toi. Je sais pas si c'est un, j'imagine que c'est un bug, mais je sais pas si je suis le seul ou pas. Quand j'ajoute un album. Ça, que ce soit un best-of ou pas d'ailleurs, une fois j'ai ajouté une BO de film, eh bien, il arrive qu'il se fragmente au fur et à mesure après en différents singles dans ma bibliothèque. Et donc visuellement c'est déroutant, évidemment après pour la lecture c'est un bordel parce qu'il faut retrouver le truc, etc. Il me dit il faut compléter l'album, mais en fait oui j'avais déjà mis à la base l'album complet, donc merci beaucoup. Donc c'est ce genre de petits détails qui... Mine de rien c'est quand même l'expérience de la musique elle-même, tu vois, et le respect de l'œuvre. Donc c'est un peu... évidemment, c'est pas volontaire de leur part, tu vois, mais c'est juste que ça dure depuis longtemps, tu vois. Ça dure depuis iTunes Match.
Ouais. Ouais. Ça, c'est des problèmes que je vois moins parce que l'avantage ou l'inconvénient du jazz, c'est qu'il y a quand même relativement rarement des singles. Et là, l'album, au sens traditionnel et ancien du terme, il a gardé toute sa valeur. Mais tu le vois, par exemple, dans les liens entre les artistes. Où c'est assez courant que un membre d'un quartet il aille jouer avec un autre quartet, ou qu'il ait son trio dans son coin, ou qu'il fasse partie d'un quintet, et où Donc là, par exemple, je prends un album que j'ai écouté aujourd'hui, qui est un album où jouent Dave Holland, Zakiya Hussain et Chris Potter. Formidable trio, par ailleurs. Et tu pourrais t'attendre à pouvoir, par exemple, cliquer sur le nom de Dave Holland pour aller voir, c'est un contrebassiste, pour aller voir tous ses albums en son nom propre, plus toutes les collaborations où il a joué de la basse derrière un autre trio, un autre quartet, un autre quintet. Et non.
Oui, il faut aller sur le nom du groupe avec le groupe plus cette personne, ça fait un autre groupe en fait.
Ouais, en fait, c'est l'entité Dave Holland, Zakiya Hussain et Chris Potter. Alors certes, c'est pas leur première collaboration, donc il y a plus d'albums où ils sont tous les trois. Mais et où tu as, voilà, dans la section tout en bas, tu as plus de titres par les trois et tu as toutes leurs discographies qui sont mélangées. Oh. Sauf qu'ils n'ont pas le même âge, ils jouent pas les mêmes instruments, ils n'ont pas les mêmes réseaux, donc il y a tout et n'importe quoi. Et c'est pas inintéressant, mais.
Mais il y a mieux.
Pas forcément le résultat attendu, quoi.
Oui. Je vois très bien, ouais.
Et c'est là où tu vois qu'il y a des modèles différents à inventer, que c'est pas inintéressant, des modèles de hiérarchisation de l'information différents à inventer, que c'est pas inintéressant que quelque part ils aient décidé de jeter l'éponge pour la musique classique en disant on n'y arrivera pas, donc on va faire un truc à part, quoi.
Ce qui pose aussi quand même la question de l'interopérabilité pour les gens qui écoutent du classique et le reste, comment ils vont faire. Donc je suis curieux de voir ça.
Je suis très content de savoir que dans quelques mois, je vais pouvoir payer 5 euros supplémentaires pour avoir une interface spécifique pour écouter les cantates de Bach.
T'as toujours été un peu élitiste, je savais.